Le meilleur de l'actualité, c'est dans Club de la Presse, votre émission d'analyse, de critique, mais aussi de proposition. Merci de vous câbler sur la fréquence de Canal FM. Michel Tomega est à la commande technique. Jero Akutia assure la mise en ligne sur les différentes plateformes de Canal FM, Facebook, YouTube et canalfm.com. On nous reçoit également en direct, pour certains en différé, pour d'autres en direct, sur Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokolé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niantougou et Radio Courtoisie à Dapan. Ibn Radio et Radio Les Bénins reprennent aussi cette émission en ligne. Pour le débat de ce jour, nous avons pour l'instant autour de la table Ambroise Pondio du journal des Guardianes. Bonjour Ambroise.
Céline, bonjour. Bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Canal FM. Je vais, si tu le permets...
Un coup de gueule.
Un coup de gueule, c'est la route de Ségbé. C'est-à-dire que chaque fois, les gens vont se poser la question, pourquoi chaque fois, il revient sur la route de Ségbé. Il faut toujours qu'il y ait une voix qui relaie ce que la masse dit dans une telle zone. Donc, la route a été faite et c'est une bonne chose de la part du gouvernement, mais le problème qui persiste aujourd'hui, c'est que la route n'est pas large. La route est extrêmement étroite et crée d'énormes accidents. Et surtout qu'elle n'est pas éclairée. De par endroit, il n'y a pas d'éclairage. Et donc, nous disons que le gouvernement peut mieux faire. Avec certains ingénieurs de BOMAF, on pouvait l'élargir. Ne serait-ce que 1m50, 1m50. Même s'il y a déjà des caniveaux, ils savent comment s'arranger en tant qu'ingénieur et spécialiste des BTP. Élargir cette voie-là pour éviter. On nous parle de route de frontière, mais là, c'est une route internationale. Je suis désolé, il y a des titans et autres qui passent. Vous imaginez quand un titan gare, c'est-à-dire se positionne pour être contrôlé au niveau de la douane de Ségbé. C'est tout un problème pour les usagers, les autres usagers, que ce soit les personnels, les véhicules ou les bus de Sotral et les véhicules usagers personnels. Donc, quand on fait et qu'il y a à améliorer, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut qu'ils améliorent cette route-là. Et au niveau de l'éclairage, c'est un problème. Les accidents se produisent le jour. Qu'en serait-il pour la nuit? La Bible dit quelque part que quand les bois verts brûlent, qu'en serait-il pour les bois secs? Pour vous dire que le nombre de gens qui sillonnent cette voie-là, du matin jusqu'au soir, c'est trop. Les gens viennent de Dakato à Voimé, Dakato à Démé, Dakato Viepé. Les gens viennent de Clémé, d'ailleurs la partie, l'axe qui va jusqu'à Zangira. Les gens viennent de Ségbégan, de Ségbé, de Sagbado. Les gens viennent de Wanyomé. Toute la voie là est occupée par ces gens-là. Et c'est les nouveaux quartiers de la périphérie où les gens sont allés acheter des lopins de terre. Après la route, on a construit la route à peine un mois, deux mois, trois mois. Tous ces villages-là sont envahis par les nouveaux arrivants. Tu comprends que dans un an, on aurait un problème de bouchon sur la voie-là. Et au même moment, la route n'est pas large. Même une manœuvre pour tourner, tu es obligé de faire aller et retour pour le faire. Et en ce moment-là, on crie, on est obligé de crier sur toi, les gens crient sur toi, alors que c'est la route qui n'est pas large. Donc, sincèrement, que le gouvernement revoie cette partie-là pour améliorer cette voie-là. C'est déjà une bonne chose.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut élargir?
Il faut l'élargir. Parce qu'il y a tellement de places de part et d'autre. Une route de 30 mètres. On prend juste 10 mètres ou 11 mètres pour faire la route. Mais je ne sais pas ce que les autres, les axes qui sont adjacentes.
C'est une question de moyens aussi.
Non. Vous savez, soit on veut faire ou on ne veut pas faire. Quand on décide de faire, il faut faire bien. C'est tout.
D'accord. Merci Ambroise Pondio. Michel Tchadja du journal Ouara Les Vainqueurs est en train de faire son entrée dans ce studio, le temps qu'il prenne place. Bonjour Michel.
Bonjour Céline.
Le micro ne marche pas encore.
Bonjour.
Oui, le micro ne marche pas encore.
Bonjour Céline.
Ah, je crois qu'on a un petit problème technique. En attendant, nous allons revenir avec Ambroise Pondio. Alors, aujourd'hui, on parle des accidents de la route. Alors, la situation que vous venez de décrire nécessite vraiment qu'on prenne des mesures, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Oui, on parle des accidents de la route. Et ça aussi, il va falloir envoyer un message au ministre Riak. Parce que tout ce qu'il a eu à prendre comme mesure jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est des bonnes choses. Mm. Mais au demeurant, je crois qu'il y a, à revoir les différentes, d'autres mesures pour pouvoir participer à la réduction des cas d'accident. Mm. Je crois que c'était dans une émission il y a quelques mois, on avait proposé de circonscrire certains usagers, surtout les motos, mm. les émigrants. Bon, et on était tous trois journalistes qui étaient présents sur le plateau, mm. à être unanimes sur ça, qu'il y a trop de émigrants dans la ville de Lomé. Et ils sont à 90% à l'origine des accidents. Quand vous êtes dans un véhicule, le véhicule ne bouge pas comme une moto. Les faufilades que les motos font là, mmh. un véhicule ne peut jamais faire ça. La preuve, quand vous laissez même le volant d'un véhicule, le véhicule fonce droit. Mmh. Mais on ne peut jamais laisser le guidon d'une moto et circuler.
Effectivement.
Mais vous n'imaginez pas les faufilades, les comportements dégueulasses que les émigrants font devant les véhicules. Mmh. Tu peux même sentir qu'on a cogné derrière.
Alors qu'il y a un couloir qui est réservé.
Ils ignorent ça. Et pour ceux-là qui viennent directement de la ferme, mmh. tu comprends, mmh. aucune notion sur le code de la route, aucune notion du respect des règles minimales de circulation, et ils sont prêts à l'omé. On ne refuse pas. Mais il va falloir canaliser ces gens-là. Mmh. Je me rappelle, c'est Jacques Diakouti qui le disait, qu'il faut les circonscrire. Depuis Zanguera, Baguida, jusqu'à Gouin, les circonscrire. Mmh. Ils n'ont qu'à occuper les voies périphériques et leur aller, leur petite voie là.
D'accord.
Mais le reste, il y a des bus, il y a des taxis dans la ville pour aérer la ville. Maintenant, le port du casque, les gens ont fait d'efforts. Ça, beaucoup ont salué ça. Et il y a encore des voyous. Il y a des dérégler, mais il y a des inconscients, des inciviques qui se permettent de ne plus porter de casque. Moi, depuis que cette décision est sortie de porter les casques là, moi j'avais une moto. Au départ, j'étais moi-même réticent parce que je n'étais pas habitué. Mm. Mais après 2 semaines, quand j'ai commencé par porter les casques, je te jure, même si je peux aller acheter, c'est pour aller acheter à 50 mètres, je porte. Si je ne porte pas, c'est comme si quelque chose me manque. Mm. Mais j'ai eu affaire à un accident. Si ce n'est pas à cause du casque, mon frère, je ne serais pas en vie ici.
Le casque sauve.
Le casque m'a sauvé. Mmh. Donc, malheureusement, les voyous dont on parle, qui devraient écouter ça, ils sont sur la moto actuellement, ils n'écoutent pas la radio. Mmh. C'est pourquoi le ministre doit sévir. En plus, pour finir, les gros véhicules porteurs, là, les transports de camions, les camions de transport de sable, les titans, mais il faut les canaliser dans un temps. Entre 6h et 7h30, ils ne passeront pas, parce que les enfants vont à l'école, soit sur Zemidian ou en taxi. Entre midi et 13h, ils ne passeront pas. Et on peut les autoriser entre 13h et 14h. Maintenant, entre 16h et 17h, ils peuvent passer. Mais avant de 17h, ces gros porteurs ne doivent. Mais malheureusement, cette réglementation existait. Mais ce n'est pas ce qu'en a fait le ministre Yac. Ce n'est pas qu'il manque de la poigne. Mais il faut qu'il sévisse dans ce sens-là. Surtout au niveau des gros porteurs-là.
D'accord. Merci, Ambroise Kondio. Alors, le micro est rétabli. Michel Tchadia, bonjour.
Bonjour Séné, bonjour Ambroise, bonjour à nos amis techniciens, surtout bonjour à nos amis super branchés au bout des ondes.
D'accord. Nous attendons Magloire Teco du journal Flambeau des démocrates. Alors, pour démarrer ce numéro, nous avons déjà démarré.
Je voulais aller dans le même sens que Ambroise pour dire que le commencement de la route de Kovie au niveau de l'Egbacito du marché de l'Egba, feu rouge du marché de l'Egba. Je voudrais dire que le trou qui est là-bas et qui empêche la circulation est encore là. Et nous allons le dire. Ça peut prendre un an, nous le dirons, parce que c'est pas moi qui roule sur cette... C'est pour la population, c'est pour notre bien. On gouverne pour le bien-être des populations. C'est pour ça que nous attirons l'attention de ceux qui sont censés et donner les ordres pour que ce trou-là soit, rempli pour permettre aux populations qui vont à Kovie, à Mishintove et ailleurs de vaquer librement, de rouler vraiment avec fluidité, avec beaucoup de sécurité. Voilà. Donc, Tant que ce tour-là ne sera pas rempli, nous allons les... Ça peut prendre un an, parce que ce n'est pas normal que... Il y en a un peu partout aussi des situations pareilles. Mmh. Mais ceux qui sont censés le faire ne font rien et on ne les inquiète pas aussi. Ce n'est pas normal.
D'accord.
Voilà. Donc, vivement que ce trou soit rempli dans les meilleurs délais que cela puisse paraître pour aider les populations dans leur circulation.
D'accord. Espérons que le maire de cette localité...
Pour les accidents, il faut le reconnaître, hein, parce que Ambroise a tout dit. Hein, vous savez, le gouvernement, depuis... la batterie de mesures que le gouvernement a pris pour essayer de nous amener à avoir de bonnes attitudes, à avoir des comportements orthodoxes pour permettre d'améliorer la sécurité routière. Je pense que la plus grande partie nous revient. C'est l'inconscience, l'insouciance. Hein, vous voyez, il y a dans la rue, vous voulez attirer l'attention d'un usager comme vous, que mais vous avez violé le feu rouge, vous avez fait ceci. Il va commencer par vous insulter. Il faut que les gens comprennent que si le ministre Yac demande de porter le casque, de mettre ceinture de sécurité, de faire régulièrement une visite technique à nos véhicules, tout, ce n'est pas pour lui. C'est pour notre vie. Vous voyez les casques que certains s'amusent à mettre sur la tête. C'est pratiquement des calebasses vernis hein, que les gens mettent. Vous faites du mal à qui? Aïe, au ministre Yac. Non, il est dans son véhicule.
Ils prennent des casques, qu'ils accrochent ça.
Qu'ils accrochent ça, voilà. Et puis... Les WhatsApp que les gens font sur les vélos, sur les motos, on les voit.
Même dans les véhicules.
Dans les véhicules. Les gens font allègrement. Et gare à vous, si vous osez à parler, on vous insulte. Je pense que le ministre doit en passer à la vitesse supérieure.
Je crois qu'ils ont commencé.
Oui, il doit passer à la vitesse supérieure. Faire en sorte que même si vous êtes dans la rue, vous pensez que vous êtes tellement puissant, il faut que quand les forces de l'ordre... Parce que des fois, même les forces de l'ordre sont obligées de fermer les yeux parce que c'est un chef, parce que c'est une, voilà, ce n'est pas normal. Si on veut que la sécurité routière soit garantie pour nous tous, c'est que il doit pas avoir un puissant qui passe sur la route. Ce n'est pas normal. D'accord. S'il commet l'erreur, mes chers policiers, il faut quand même lui dire quelque chose. Voilà.
D'accord, merci Michel Tchadja. Magloire Teko du journal Flambeau des démocrates nous a rejoint également. Bonjour Magloire.
Bonjour à toi, Fousséni. Bonjour aux confrères Michel et Ambroise. Bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices de Radio Canal FM, la nouvelle génération.
D'accord. Parcourons quelques titres de journaux parus ce jour. Nous commençons avec Ouara Les Vainqueurs qui évoque le foncier dans un article titré « Titre foncier, faire attention à l'arnaque ». Alors, Michel Tchadja, malgré les nouvelles dispositions pour limiter la fraude, des individus mal intentionnés ont élaboré des stratégies pour anarquer les gens, et le phénomène semble prendre de l'ampleur.
De l'ampleur, c'est pourquoi même l'OTR, l'Office de l'aide de recettes, a pris a tiré la sonnette d'alarme pour appeler la population à la vigilance. Vous savez, il y a des gens, moi-même j'ai eu à recevoir un coup de fil, et on dit « bon, votre dossier est prêt ». Je dis « quel dossier ?» Je dis « quel dossier ?» Il dit non, ce n'est pas mon dossier. J'ai le dossier avec eux, alors que moi, je n'ai déposé aucun dossier. Vous voyez ? Donc, c'est des gens comme ça, ils jouent sur la conscience des populations, et sachant bien que les gens ont envie d'avoir donc, ce document essentiel. Donc, ils agissent de cette façon-là pour ceux qui, manquent un peu de vigilance. Ils arrivent à tomber dans le piège de ces gens-là, qui prennent de l'argent, qui promettent des choses. Qui ne viendront jamais à leur interlocuteur. Donc, l'auteur demande aux gens, lorsque vous voulez faire le titre foncier, la démarche, elle est structurelle et elle est officielle. Vous n'avez besoin de personne. Et donc, ce n'est pas la peine de se confier à des gens, à des individus, en tout cas, tapis dans l'ombre, juste pour essayer de pouvoir sucer ou bien retirer de l'argent aux paisibles citoyens.
D'accord. Ambroise Kondjou.
Oui, vous savez, quand on parle, vous parlez de l'OTR ou de ces anarcheurs-là, j'ai ri quoi. J'ai ri tout simplement parce que le 26 juillet, tu sais, j'ai la date, j'ai été victime de ça. Bien avant que l'OTR ne soit communiqué. Tu sais, l'OTR ne soit communiqué que le lundi. Déjà, la semaine passée, moi, j'ai été victime. Et bizarrement, par coïncidence.
C'est sur cette base même que. Constat que il y a des choses qui se font.
Justement, j'ai compris que. Ils ont distribué ça à un nombre de gens. Et l'OTR a constaté avant de sortir son communiqué.
D'accord.
Le communiqué dit ceci. Bonjour. c'est l'OTR, Direction du Cadastre de la Conservation Foncière et l'Enrichissement DCCFE, titre foncier. Veuillez nous rappeler sur le numéro 91 87 19 37.
Merci. Juste, c'est le message, ça.
Bon, quand j'ai lu ça, j'ai appelé le numéro là. Et j'ai dit, mais si moi j'ai quelque chose à faire, je crois qu'il y a un notaire qui doit gérer ce dossier-là. Mm. Et je lui ai dit que, apparemment, comme il y a des anarchistes, je lui ai dit ça, hein, comme il y a des anarchistes, je ne crois pas que ce soit vraiment eux. Hein. Et il me dit d'envoyer le numéro de notaire. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mm. Mais après, je me suis dit que mais, ces gens-là, c'est des anarchistes. Mm. L'OTR ne peut pas nous envoyer. L'OTR a les moyens pour appeler.
C'est ça.
Si tu veux faire un titre foncier et tu déposes, l'OTR a les moyens d'appeler.
Et moi, on m'a appelé un samedi. Oui. Un samedi. Oui. Ouais.
Mm. Et donc, je crois que c'est généralisé. C'est qui a amené l'OTR à se positionner. Mm. Moi, j'ai juste envoyé ce message à l'OTR. Si vous savez que quelqu'un a déposé un titre pour le bornage, par exemple, parce que les gens sont passés par le notaire, d'autres vont à titre individuel. Mm. Il faut appeler directement la personne, que la personne vienne se présenter à un guichet ou à quelque part. Là, on sait que c'est l'OTR, quoi. Mm. Parce que ces gens-là, c'est comme la CET. Au niveau de la CET, il y a des arnaqueurs aussi. On vous dit, c'est pour le branchement. Moi, qui me suis branché depuis 5 ans, on appelle encore pour brancher quoi. J'ai dit que... Et j'ai appelé monsieur, voyou là, ne m'appelle plus, n'appelle plus ce numéro.
D'accord.
Pour dire en réalité que c'est nous tous qui avions des problèmes dans le pays. Mm. Ce ne sont pas eux seulement qui ont des problèmes. Et eux, ils ont transporté leurs problèmes sur la tête. Et ils veulent que nous, on vienne régler ça, non?
D'accord, merci. Non. Merci, Ambroise. Magla, qu'as-tu à ajouter?
Non, mais je crois que c'est un phénomène sociétal qui a cours depuis peu. Et il n'y a pas que ces institutions dont font cas nous, mes confrères. Vous pouvez être là et quelqu'un vous appelle pour dire c'est peut-être la police nationale, je sais pas, c'est l'OTR. Ils sont tellement ingénieux dans leur tête.
C'est votre ami le policier.
Voilà, ou c'est le votre gendarme. Ami le policier. C'est ça, et que c'est je ça. Suis quelque part dans Bruce Verbassar
voilà,
et que.
Voilà. Et c'est les mêmes arguments qui tiennent.
Exactement. Bon, c'est vrai qu'au début de ces histoires-là, beaucoup de gens sont tombés dans la nasse. Mais je crois qu'avec.
Les gens continuent par tomber.
Exactement. Mais je crois qu'avec l'évolution de la technologie et avec toute la sensibilisation qui a cours, certains, peut-être pas méga, par, on va dire, ignorance même, continuent de tomber dans la nasse. Mais alors, c'est vrai que on peut continuer toujours pas sensibiliser parce que aux dernières nouvelles, il nous revient que généralement ces gens-là d'abord, ils font partie d'un grand réseau, d'un vaste réseau, et que ils peuvent vous appeler directement par votre nom, le nom de votre papa ou de votre maman, votre soeur, votre frère, demander comment va la famille. Ils savent même ce que vous faites comme activité. Ça voudra dire quoi? C'est un réseau qui opère et on charge chacun qui connaît des individus de mieux les renseigner sur sur leurs victimes. Mmh. Comme ça, c'est leur stratégie d'abord de vous berner et pouvoir vous rouler dans la farine
ensuite.
Mettre
en confiance.
Voilà. Maintenant, si au même moment, on doit appeler les concitoyens, les populations à rester vigilants à la matière, l'autre aspect, c'est que on ne comprend pas que depuis, on va dire, 2014, où les réseaux de télécommunications que nous avons appellent sans cesse comment vous appelez leur processus
d'identification.
À l'identification. Ils ont même menacé les usagers de se faire identifier ou d'identifier leur numéro au risque même de voir les numéros supprimés. On a fait ça une fois, deux fois, je crois trois fois même. Mais si aujourd'hui les gens arrivent encore à appeler avec des numéros Togocel, des numéros Move, pour arnaquer des gens, on se demande, mais comment est-ce qu'ils se débrouillent?
Ils trouvent ces numéros.
Est-ce à dire que le système même de ces opérateurs de téléphonie est tellement fragile qu'on peut les pirater à tout moment? Mais je crois que c'est un débat qui est là.
D'accord.
Et qui amène les uns les autres à revoir leur stratégie, même au niveau de l'État, parce que on maximise beaucoup plus la lutte contre la cybercriminalité. Et l'État essaie de faire de son mieux. Il faudrait maintenant que les opérateurs de téléphonie mobile essaient également de jouer pleinement leur partition.
D'accord, merci Magloire. Restons avec Ouara les vainqueurs pour évoquer un autre sujet tout aussi important. Il n'est pas rare, pendant la saison des mangues, de voir à l'intérieur du pays des quantités importantes de mangues se gâter parce que les bonnes femmes n'ont pas pu les vendre à temps. Et c'est des tonnes de mangues que le pays perd chaque année. Eh bien, une solution va peut-être naître de cette nouvelle initiative du gouvernement que le journal évoque dans un article ce jour. Voilà les vainqueurs titre « Togo, le gouvernement investit dans la filière mangue ». Michel Tchadja.
Oui, je pense que comme tu l'as dit, pour ceux qui sortent hors de Lomé, qui vont vers l'intérieur, au temps des mangues, à la période des mangues, il y a vraiment des quantités importantes donc des mangues qui sont déversées sur le marché, alors que vous savez que c'est des fruits qui sont périssables et au bout d'un temps, si ça n'est pas consommé, ça ne sert à rien, ça va peut-être pourrir. Et donc, le gouvernement, soucieux de d'avoir un nouveau regard beaucoup plus poussé pour permettre donc ceux qui s'intéressent dans cette filière de pouvoir s'organiser et transformer donc ces mangues-là sur place pour avoir du jus. Je pense que c'est une initiative.
Même de la mangue séchée.
Séchée aussi, ouais. Oui, de la mangue séchée aussi. C'est aussi, entre autres, alternative pour essayer d'éviter que ces fruits-là vraiment pourrissent. Et donc, c'est une manière de créer aussi des emplois. Parce que la transformation locale demande, fait appel à la main-d'œuvre. Et ça va permettre à certains de nos frères et sœurs de trouver un peu de boulot pour essayer de créer la richesse. Parce que pendant longtemps, vous savez, les gens appellent donc à organiser ce secteur-là parce que nous avons des quantités, des dizaines de tonnes de mangues qui vraiment pourrissent chaque année sans servir. Alors que si ces mangues-là sont bien traitées, bien organisées, celles que nous aurons du jus et autres dérivés
toute l'année
avant d'arriver à l'autre saison des mangues. Donc, je pense que c'est une initiative gouvernementale très, très salvatrice qui nous a amené donc à évoquer cela.
D'accord. Alors, nous risquons un jour de ne plus trouver assez de mangue, ce délicieux fruit que nous aimons tant, si une solution durable n'est pas trouvée au phénomène des feux de brousse qui détruisent des arbres et des cultures. Le sujet est à la une du journal Flambeau des démocrates ce jeudi. L'agriculture à l'épreuve des feux de brousse, titre le journal. Alors, Magloateko, c'est un phénomène ancien qui continue de faire rage dans nos contrées et c'est sans conséquence sur la sécurité alimentaire.
Évidemment, vous savez, comme vous l'avez dit, c'est un phénomène déjà assez ancien. On le sait. Et chaque année, pratiquement, on essaie de sensibiliser les uns les autres sur le caractère assez dangereux, n'est-ce pas, de ces feux de brousse-là. Mais le paradoxe est que plus les années passent, plus on constate que le phénomène perdure. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous nous sommes intéressés au sujet et on a consulté, n'est-ce pas, ceux qui s'y connaissent en la matière, des experts, qui nous ont expliqué en réalité que la réalité, c'est que beaucoup de paysans ou d'agriculteurs confondent un peu la stratégie de qu'il fallait mettre en place pour faire leur champ. Vous savez, dans les stratégies conventionnelles, il y a ce qu'on appelle par exemple les pare-feux. Ça, Michel le connaît très bien. Mon directeur Ambroise également, les pare-feux, ça permet justement de faire des tracés et protéger, n'est-ce pas, son champ contre des incendies, on va dire, d'origine criminelle. Alors, il se fait que certains paysans ou certains agriculteurs confondent justement ces pare-feux à des feux de brousse. Pour eux, il fallait tout de suite mettre le feu, quitte après peut-être à trouver, on va dire, des animaux, des gibiers, parce que c'est ça aussi l'idée qui est derrière la tête de beaucoup de gens. C'est vrai que nos amis nomades aussi ont contribué beaucoup à ce phénomène, mais les experts nous ont expliqué que à partir du moment où les gens n'ont pas l'éducation nécessaire qu'il faut, n'est-ce pas, pour pouvoir protéger d'abord son champ, le mettre dans les conditions pour avoir des productions assez rentables, il va falloir mettre l'accent sur des approches qui puissent permettre aux gens d'abord de s'approprier ces mécanismes-là, qui puissent sauver d'abord des vies, sauver des terres et permettre à ce que les terres soient rentables pour qu'on ait des greniers. Parce que les feux de brousse, comme on le sait, non seulement ça détruit les greniers, ça détruit la faune, la flore, et même
des concessions,
des ménages même partent en feu, et parfois même on dénoue des pertes en vie humaine. Et il n'y a pas longtemps, il y a un projet monté par exemple l'international togolais l'ancien Obilale Kojovi, quelque part vers Lavé, je crois, un champ d'ananas qui, du jour au lendemain, le monsieur s'est rendu sur le champ beau matin et il a constaté que tout son champ d'ananas est parti en fumée. Voilà. Jusqu'à ce jour, on ne sait véritablement pas ce qui s'est réellement passé. Et donc, il y a, n'est-ce pas, ces incendies qui sont d'origine bien criminelle, il y en a parfois qui sont causés par méconnaissance des stratégies, des mécanismes. Et donc, l'objectif de cet article pour nous, c'est d'interpeller le ministère de l'Agriculture, par exemple, pour mettre ces techniciens, n'est-ce pas, au service du monde paysan togolais, pour que jusque-là, ceux qui ne maîtrisent pas encore les mécaniques qu'il faut pour différencier par les pare-feux de la culture sur terre brûlée et tout ce qui va avec, de parvenir maintenant à mettre la différence entre les différents mécaniques pour protéger d'abord notre environnement, nos terres, nos cultures. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, le Togo, quoi, ça fait à plus de 60%, les populations sont agricoles et l'agriculture contribue même à plus de 40% de notre PIB. Et donc, il y a de quoi protéger ce secteur qui nous nourrit tant et qui nous permettra véritablement de nous autosuffire en matière d'alimentation. Et pourquoi pas peut-être penser à l'exportation dans les jours à venir.
D'accord. Merci, Magloire. Alors, nous sortons un peu du Togo. La situation reste tendue au Sénégal avec des manifestations violentes déclenchées à la suite de l'arrestation d'Ousmane Sonko. Le principal opposant croupit en prison depuis lundi pour 8 chefs d'accusation. Et comme si cela ne suffisait pas, son parti, le PASTEF, a été dissous par les autorités sénégalaises. L'accès à Internet a été limité sur décision du gouvernement. Une autre décision prise hier annonce la coupure du TikTok. Côté bilan, selon certaines sources, la ville morte à Dakar a été largement suivie hier. Et comme bilan des manifestations, il y aurait plusieurs victimes et des dégâts matériels importants. Ambroise Kondio, réaction sur cette nouvelle situation au Sénégal.
C'est regrettable. C'est regrettable que nous en soyons là par rapport à la gouvernance de Macky Sall. Mais si tu ne veux plus être candidat parce que certains, le peuple t'a poussé à renoncer, mais laisse les autres candidater, quitte à choisir, à eux de choisir ceux-là qu'ils veulent les prendre à leur destinée. Et je ne comprends pas Macky Sall. Ça y est, d'abord, il n'est pas sage. La dernière fois, quand il répondait au président burkinabé à Saint-Pétersbourg, c'est là que j'ai dit, mais ce monsieur, on le voit géant, comme le Nigeria, mais il a un pied d'argile, comme le Nigeria en même temps. Pour vous dire qu'en réalité, le pouvoir ne doit pas saouler. Si le pouvoir devait saouler, ou devait être de l'alcool pour certains, Yahi Boni ne quitterait pas le Bénin. Mais Abdoul Salami Aboubakar, dont on parlait, il avait fait la transition, il n'allait pas partir. Et Goodluck Jonathan n'allait pas partir. Boiry n'allait pas partir. Quand vous allez à côté ici au Ghana, l'autre là n'allait pas venir parce que lui c'est un francophile qui rognait les couloirs de la présidence depuis longtemps. Et il est là aujourd'hui. Maintenant, Macky Sall, qu'est-ce qu'il a comme problème? Les Khalifa Sall, les Karim Wade, ils ont été chassés. Ils les ont verrouillés pour ne jamais voir les portes de la présidence. Aujourd'hui, il fait les jeux de joue à ces gens-là, au détriment de Sonko, qui est son principal opposant. Maintenant que Sonko et le peuple sénégalais l'ont poussé à renoncer à un troisième mandat, il ne veut plus le voir, il est prêt même à le tuer. Pour vous dire que le Sénégal, qui est un modèle de démocratie depuis Senghor, qui lui-même avait démissionné de lui-même, Abdou Diouf et Ouad qui avaient voulu résister, lui, Macky Sall, il a été l'un des premiers à crier dans les micros qu'on croit le peuple doit sortir. Maintenant, le peuple sort contre toi. Tu ne veux pas, tu es en train de faire tirer sur ce peuple-là. Tu embastilles ton opposant. Mais lui, il est encore jeune, il a 50 ans à peine, 49 ans. Son corps reviendra. Lui, il est en train de partir. Et il n'a qu'à prier, compter sur la fraude pour que comment on appelle son groupe-là, ils sont souvent en coalition là, la coalition qui l'a amené au pouvoir puisse conserver le pouvoir ou conserver le fauteuil présidentiel. Sinon, Macky Sall aura chaud. Il a beau se réfugier en France, mais il reviendra toujours au Sénégal. Faut pas vouloir détruire son pays après lui, après soi quoi. Parce que après Macky Sall, il ne doit pas y avoir le déluge au Sénégal. Le Sénégal qui était, quand vous allez à Dakar, le Sénégal était un havre de paix. C'est un havre de paix. Maintenant, lui, il veut tout détruire. Et il est conscient de ça. Sincèrement, il y en a qui ont été à l'école. Mais ils ont été à l'école pour la forme. Ils n'ont pas été à l'école pour être civilisés. Lui n'a pas été à l'école pour savoir distinguer le bien du mal. Il est toujours à l'étape de Judas. Il est toujours à l'étape de la révolution industrielle. Macky Sall n'a jamais évolué. Maintenant, on coupe. Tout ce qui fonde la liberté d'expression. TikTok a fait quoi? La connexion a fait quoi? Les banques qui doivent servir leurs clients, ils ont besoin de quoi? C'est de la connexion. Maintenant, tu coupes. D'abord, il va enfreindre tout ce qui va à booster l'économie au Sénégal. Il restreint les libertés. Et la liberté d'expression. Et lui-même, il est content. On va y revenir.
D'accord. Monsieur Tadja, réaction.
Vous savez, bon, quand le président sénégalais répondait à son homologue burkinabé en Russie, vous avez vu sa posture, c'est un président nerveux. Ça veut dire depuis qu'il a compris que les Sénégalais sont prêts à lui donner la route à un troisième mandat. C'est un président nerveux. Regardez, vous savez, il faut encore visionner les images. C'est un président nerveux. Vous voyez? Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est ces gens de présidents qui vont se réunir pour décider d'aller chasser un régime dans un autre pays. C'est comme ça. C'est un président comme ça, ils font partie de ceux-là qui prennent des décisions pour aller chasser. Moi, c'est ça qui m'étonne. Vous savez, on a beaucoup parlé du Sénégal. Je ne vais pas beaucoup m'aider encore aujourd'hui parce que... ce qui doit inquiéter, en tout cas la communauté sous-régionale, c'est que ces partis, parce que leur élection, c'est jusqu'en 2024. Et c'est parti pour des troubles jusqu'à cette date, même un peu après. C'est-à-dire, quand vous voyez l'histoire du Sénégal, quand vous voyez le fonctionnement de la communauté sénégalaise, vous comprendrez clairement que Macky Sall vraiment a semé, il a créé une situation vraiment que lui seul peut expliquer un jour aux Sénégalais. Sinon, à la lune vont les choses. Je ne sais pas si l'autre là, on ne le pourchassait pas, on ne voulait pas l'éliminer politiquement. Et si on avait créé toutes les conditions pour que les gens aient chance égale pour aller aux élections, si cette situation pourrait créer des morts, des dégâts, comme on le constate aujourd'hui. Quand on se met à couper TikTok et quel réseau social aussi, vous avez parlé de
l'Internet.
L'internet. Vous savez, là-bas, ça ne m'étonne pas.
Accès limité.
Oui, vous savez que les régimes dictatoriaux, les régimes autoritaires, pour eux, l'Internet est plus puissant qu'un simple bulletin de vote. Donc, quand vous comprenez ça, l'Internet aujourd'hui est plus puissant qu'un bulletin de vote. Ce qui fait que on s'acharne beaucoup sur l'Internet que de travailler, aider les populations à bien vivre, quitte à elle de vous élire un jour.
Voilà. D'accord, merci Michel. Alors, Magloire Teko, les deux dernières alternances dans ce pays sont survenues dans la violence. Pourtant, le Sénégal est vu comme un modèle de démocratie en Afrique. Alors, avec ce qui se passe aujourd'hui, doit-on dire qu'il y a un recul de la démocratie dans ce pays?
Doit-on conclure immédiatement? Je ne saurais le dire parce que c'est tout un long processus. On faisait déjà le débat il y a quelques jours, lorsqu'il agit peut-être de renoncer à un hypothétique troisième mandat. Et nous autres, nous l'avons dit que malgré tout, même si c'était sous pression, c'était une décision sage de sa part. Maintenant, les jours qui passent sont en train de prouver peut-être aux détracteurs de Macky Sall, qu'ils avaient raison, n'est-ce pas, de ne pas croire en ces paroles. Vous savez, Michel évoquait tantôt le cas de Saint-Pétersbourg lorsque ils essayaient de répondre au président Kinambé devant les autres chefs d'État et devant le président Poutine. Monsieur Macky Sall était dans la posture, n'est-ce pas, de ce sage-là qui essayait de recadrer un jeune qui, à ses yeux, manque d'expérience en matière politique et tout. Maintenant, c'est bien, ça voudra dire que tu es sage, tu dois rester sage sur toute la ligne. Mais au même moment, ça contredit à peu près ce qu'il prétend faire dans son propre pays, c'est-à-dire qu'on lui prêtait des intentions de briguer un troisième mandat. Il a dit non, qu'au Sénégal, il y a plus d'intelligents que lui et qu'il ne doit pas mettre ou hypothéquer l'avenir de toute une nation. Donc, il se retire. Alors, pourquoi vous vous retirez et vous essayez, n'est-ce pas, de dramatiser la situation beaucoup plus qu'elle n'était avant? On est allé jusqu'à dissoudre le parti de Sonko. Moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'on ne peut politique autrement en Afrique comme on le fait aujourd'hui? C'est vrai qu'on parlait tantôt de la coupure d'Internet et tout ce qui va avec. De l'autre côté, on vous évoquera également des raisons d'État. Mais en même temps, étant dans un contexte typiquement africain, on sait ce qui sous-tend ces vocables de raisons d'État, de mesures sécuritaires et tout. Alors, dissoudre aujourd'hui le parti de M. Sonko, pour moi, c'est de dresser une partie de la population sénégalaise contre l'État sénégalais. Voyez-vous, parce que dans l'instinct humain, lorsque vous vous acharnez sur quelqu'un, vous le compressez, vous le torturez, vous le rendez dans la poursuite d'une éternelle victime, eh bien, sa cote de popularité aussi s'augmente. Et c'est comme ça que vous créez des personnalités qui, peut-être, si vous la laissiez au départ comme cela, il n'arriverait nulle part dans sa lutte. Mais plus vous le compressez, plus vous voulez le brimer ses droits et lui bloquer le chemin pour évoluer, ben, vous allez faire de lui peut-être un opposant farouche qui va peut-être vous faire tomber. Et c'est ce que M. Macky Sall essaie de faire, peut-être sans le savoir, parce que saoulé à un moment donné par le pouvoir. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que tout ceci serve de leçon. Le pouvoir. Lui-même, il a dit que tôt ou tard, il va quitter le pouvoir, mais il n'entend point déménager pour aller résider en Europe ou en France, qu'il va rester en Afrique ou dans son propre pays. Mais comment se fait-il que vous avez cette intention, mais les actes que vous posez ne reflètent pas véritablement votre opinion? C'est-à-dire que quand vous mettez aujourd'hui le pays à feu, on va me dire l'opposant Sonko, il est jeune, il monte les jeunes contre les institutions de la République et tout. Mais en jargon militaire, on dit qu'il n'y a pas de réaction sans action. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous faites et qu'une partie de la population se rebelle contre l'autorité publique. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça voudrait que quelque part, ces réactions-là viennent appuyer ou corroborer des injustices qui sont contre un citoyen à un moment donné, qui ne plaisent pas aux autres concitoyens qui sont dans la logique de ce dernier-là. Il faut interpeller M. Macky Sall pendant qu'il a encore temps de mettre de l'eau dans son vin. Il a dit que chaque dirigeant évolue selon sa génération, selon son époque. Que eux, aujourd'hui, leur lutte, la lutte de leur génération, c'est de lutter contre le terrorisme. Et ce qu'il fait pour moi, c'est aussi une manière de terroriser une partie de sa population. Et ce n'est pas bien. Ça le met en condition avec ses propres idéaux qu'il essaie de prôner.
D'accord, nous sortons de ce sujet avec Michel Tchadia.
Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que, vous savez, depuis 2021, mars 2021, vous avez vu les troubles qui ont émaillé, en tout cas,
le Sénégal,
justement, lorsque cette affaire judiciaire a commencé contre Sonko. Jusqu'à ce jour, ça continue. Mais est-ce que vous avez vu une institution sous-régionale monter chrono pour appeler à la retenue ou bien au calme? Vous voyez, actuellement, ni la CDAO, ni le MOA, personne, mais en tout cas officiellement, personne ne nous dit pourquoi on ne dit rien par rapport au Sénégal. Parce que dans la diplomatie, il y a le droit de comment non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Ou bien, mais ce que nous constatons ces derniers temps par rapport à la posture dans laquelle surtout la CEDEAO interpelle la nouvelle génération en Afrique et ailleurs. Parce que c'est quand les petits problèmes commencent qu'il faut essayer d'aider à calmer les choses. Et ce n'est pas la peine de fermer les yeux au nom de la non-ingérence. Et au soir, lorsque les populations elles-mêmes trouvent l'occasion de régler leurs propres problèmes, que des gens montent dans des avions, ils circulent, ils sillonnent la sous-région, qu'ils sont à la recherche des solutions. Lesquelles? Quand ça avait commencé, vous étiez où?
D'accord. Voilà. Merci Michel. Actualité oblige, nous allons encore parler du Niger, où les putschistes détiennent toujours en otage le président Mohamed Bazoum, malgré l'injonction donnée par la CEDEAO et l'UEMOA pour le remettre au fauteuil présidentiel. Nous approchons de la fin de l'ultimatum d'une semaine donné aux putschistes et donc d'une possible intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Et justement, à la suite de cette possible intervention annoncée par la CEDEAO, beaucoup de réactions, notamment celles du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, de l'Algérie, de la Russie et d'autres pays. Et tout le monde se demande, Ambroise Kondjo, ce qui va se passer à partir de dimanche si les putschistes ne libèrent pas le président Bazoum. Vous vous posez certainement la
question. Rien ne va se passer. Il faut qu'on soit clair. Vous n'arrivez pas à déloger des petits groupes djihadistes. Boko Haram au Nigeria. Le Nigeria dont je parle, c'est un pays chez nous, on dit Ogoumi. C'est-à-dire que c'est, quand on les appelle et un pays au pied d'argile là, ça se comprend. Depuis Yakubu Gouron, quand Enugu a voulu faire truc de Biafra là, et que la France a envoyé, au Mambongo a envoyé des avions pour aller mater, je salue la mémoire de Yakubu Gouron. Qui les a matés, parce que c'est la France qui est derrière. Et je vous dis que c'est la France qui est l'investisseur étranger, le premier investisseur étranger au Nigeria. Comment vous pouvez comprendre ça? Vous êtes nombreux, plus que tout le monde. Et vous êtes en Afrique de l'Ouest, on compte sur vous. Maintenant, vous élisez un homme d'affaires. Les hommes d'affaires, là où ça penche l'argent, ça sent l'argent là. C'est là-bas, ils s'en vont. Vous n'arrivez pas à prendre des petits groupes de djihadistes de Boko Haram. Vous voulez aller affronter toute une armée dans un pays, et pas une seule. Mali, Niger, Mali, Guinée et encore Burkina Faso. Et je ne parle pas de la Russie jusqu'à présent, sans aller même en Algérie, parce que l'Algérie est l'une des premières puissances en Afrique.
En Afrique. Oui.
Mais non, parlons de ce fameux, celui pour qui on veut aller déloger les militaires. Le monsieur, il est qui? D'abord, est-ce qu'il est Nigérien? Ça, c'est un grand point d'interrogation. Ça, c'est un des deux. Il est là, il est venu comment? Nous, on a vu qu'il a été élu, d'accord. Mais il a été élu comment? C'est un francophile de sang. Un francophile pur et dur. Et donc, il est là-bas pour sauvegarder l'uranium pour la France. Et cet uranium-là, les Nigériens étaient déjà incapables de le déloger parce que la géopolitique interne voudra que ce soit la France qui guillonne les choses depuis 50 ans. Maintenant, ils ont positionné leurs militaires. Et les Américains aussi. Demandez-vous pourquoi ils sont là-bas. Jusqu'à quand les Nigériens seront intelligents sur ce continent? Vous êtes plus jeunes, vous êtes 200 millions, voire 250 millions d'habitants. Aidez-nous à nous débarrasser des néocolonialistes. C'est ce que nous demandons. Pas plus que ça. Vous voulez intervenir contre un peuple à cause d'un seul individu. Fut-il soutien des terroristes? Puisqu'il dit que les terroristes sont plus puissants que son armée. Enfin, je ne veux pas aller là parce que si on le dépose devant moi tout à l'heure là, il ne va plus se réveiller. Parce que
la violence.
c'est pas de la violence. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on me dise que Bazoum, un seul individu, quand la CEDEAO veut qu'on libère, on va maintenant tirer dans tout le Niger pour tuer la population. Mais si vous élaguez cet individu-là, qu'on appelle Bazoum, et prenez en compte ou prendre en compte les désidératas du peuple du Niger, même si c'est les militaires qui ont pris le pouvoir, mais comment ça ne peut pas se comprendre? C'est-à-dire que les gens sont unanimes sur toutes les plateformes. En Afrique, tout le monde est unanime. À part ceux-là que la France envoie de l'argent pour soutenir Bazoum, mais la grande majorité dit, CEDEAO, prenez votre garde parce que vous êtes combien? 15. Et 15 là, il y a déjà le Mali qui se désolidarise. Il y a le Burkina qui se désolidarise. Il y a la Guinée. Bon, l'Algérie n'est pas dedans. Mauritanie aussi, de façon glamaglama. Et celui qui s'agite comme un petit veau, tu connais un petit veau, non? C'est notre ami Talon. Je ne comprends pas pourquoi lui s'agite comme ça. Il s'agite pourquoi? Parce que Mohamed Bouhari, comment on l'appelle, l'ancien président, Bouhari l'a ignoré. Et il est devenu le bras droit de Tinubu. Tinubu, c'est un homme d'affaires.
Il paraît qu'il était même en exil au Bénin.
Oui. Tinubu, lui, c'est un faiseur de roi qu'on a transformé en roi aujourd'hui. C'est peut-être il dort trop aussi. Tout ça, il va falloir le comprendre que quand on est trop fatigué pour venir gouverner, à plus de 70 ans, je ne crois pas que ce soit lui qui soit là-bas. Et je vais terminer en disant...
Oui, pour terminer.
Le Niger fait partie de l'Afrique de l'Ouest. Il faut que la CEDEAO cesse d'être manipulée par la France. Nous, on va aller direct au but. Parce que si les États-Unis, les dirigeants, je ne parle pas des Français, les Français, c'est autre chose, mais les dirigeants français et américains pensent que l'Afrique de l'Ouest est une charge gardée à cause de l'uranium, de l'or, de tout ce qui a comme ressources minières en Afrique, et que si éventuellement, tel que j'ai écouté un Français qui disait que si jamais nous laissons l'Afrique, nous sommes foutus, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les Africains sont en train de se lever. Les Africains se réveillent. Et il faut que l'Afrique se réveille définitivement pour balayer la route aux néocolonialistes et aux néo-impérialistes. Parce que quand l'heure a sonné pour le faire, il faut que le Nigeria, le géant du Nigeria, qu'il comprenne qu'on ne peut pas faire le lit à ceux-là qui veulent nous détruire. Le soutien
pour terminer.
Que le Togo, par exemple, peut apporter. Vous allez voir que le Togo est hybride dans tout ça. Et moi, j'apprécie ça d'une mesure, dans ce sens que ils étaient un soutien au Mali. Je ne vois en quoi ils ne vont pas soutenir le Niger, mais ils ne vont pas l'affirmer. Parce que s'ils l'affirment aujourd'hui, je doute même fort que le Togo envoie des militaires, peut-être pour la paix, pour se regarder la paix, mais aller faire comme le Bénin est en train de faire là, sincèrement, on ne peut pas soutenir des choses comme ça.
D'accord, merci Ambroise. Magla?
Oui, le sujet, ça passionne beaucoup, ça cristallise les débats. Et à mon niveau, je crois que pour relativiser un peu, il faut quand même avoir ce courage aussi de dire que chez nous en Afrique, il y a un sérieux problème. Autant les dirigeants portent en torse à la démocratie parce que quand vous êtes là et que vous ne vous souciez pas du bien-être de votre population, mais au contraire, vous consacrez tout votre mandat à plaire peut-être à celui au faiseur de roi, celui qui a balisé la voie pour que vous soyez là où vous êtes. On ne peut assister qu'à ce genre de scène. Et donc, autant on peut le reprocher cela à nos dirigeants, autant il faut avoir ce courage aussi de reconnaître qu'on ne peut pas éperdument continuer par renverser des régimes démocratiques comme ça. Le gars, il est élu, peu importe ses entre-griffes, ses conneries, ses balbutiements, il faut quand même attendre le moment venu pour le sanctionner dans les urnes. On était ici en reprochant cela à l'ancien président, on avait reproché à la junte burkinabé qui a évincé le président Kaboré que ce coup d'État n'avait pas sa raison d'être. Encore que lui-même, il était venu en bon militaire, mais il était pire que le président Kaboré. C'est-à-dire donc que soit on épouse la démocratie, on se plie à ses exigences, c'est-à-dire que si on reproche quelque chose à un dirigeant, il faut attendre la fin de son mandat pour le sanctionner dans les urnes. C'est vrai, je sais que la problématique des élections également, c'est tout un problème en Afrique, mais il faut qu'on essaie de construire dans une dynamique unitaire notre jeune démocratie qui forcément va grandir un jour, si on le veut bien. Maintenant, au même moment, pour ceux qui peut-être croient à cette histoire d'intervention militaire au Niger, je dis, c'est peut-être des gens qui se laissent un peu enfariner. Parce que pour ceux qui connaissent un peu ce qu'on appelle la stratégie de communication politique, c'est ce qu'on appelle la propagande. Ils le font juste pour faire pression sur la junte militaire au Niger. C'est un peu comme l'Union européenne ou le monde occidental dit qu'on donne injonction à la CPI de traquer le président Poutine, sachant que c'est impossible, ce n'est même pas possible, ils ne pourront pas le faire. Mais ils le font, ils le disent sereinement, comme si c'était probable. Et ceux qui naïvement peuvent croire à ça, pour eux, ça va être quelque chose qui peut arriver du jour au lendemain, alors que ça ne pourra jamais arriver. C'est le même cas qui se produit pour ce qui est du Niger. En aucun moment, la CDAO ne pourra intervenir militairement au Niger, parce que ça va avoir des conséquences inimaginables. Parce que quoi qu'on dise, peu importe le mécanisme par lequel la junte est arrivée au pouvoir, le Niger, c'est un État autonome. C'est un État avec tout sur quoi repose un État autonome. C'est-à-dire que vous faites ça, c'est que vous déclarez la guerre à toute une nation. Et ça, je n'imagine même pas les chefs d'État africains faire ça.
Ça risque de se généraliser parce que certains pays ont annoncé qu'ils vont rentrer dans la guerre.
Bien entendu, c'est pour ça que je dis que c'est de la propagande et ils font. Ils ne pourront jamais le faire. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est peut-être trouver les voies diplomatiques pour résoudre le problème. Parce que nous ne sommes pas naïfs. Des militaires qui renversent un président légitimement élu. Mais vous pensez que après avoir conservé ou capté le pouvoir, une semaine, deux semaines après, vous leur dites de libérer le président pour qu'il reprenne son fauteuil et ils vont se laisser faire. S'ils le font, s'ils remettent le président en selle, ils vont devenir quoi? Parce que c'est des actes qui ne restent pas impunis.
Absolument.
Ah ben oui, c'est comme si on leur dit de se faire harakiri, c'est impossible. Donc pour moi, la meilleure manière, la meilleure approche aujourd'hui, c'est d'adopter une stratégie diplomatique purement pour essayer, n'est-ce pas, de décanter la situation. Parce qu'on va commencer ça, Dieu seul sait là où on va arriver. C'est le général Yadema qui disait la guerre, on sait quand.
Ça commence,
mais on ne sait jamais quand ça va terminer. Encore que, en mars 2023, la CDAO s'était réunie à Accra, sur ce qu'eux-mêmes ils appellent l'initiative d'Accra. Et l'une des grandes décisions, c'est de former, c'est de mettre en place une force coalisée pour lutter contre le terrorisme. Et selon ce que les chefs d'État de la sous-région ont dit, c'est que cette force coalisée devrait prendre corps de mars 2023 à décembre. Non, c'était en 2022, je crois.
Oui, 2022, c'était
l'année
passée.
Voilà, elle disait que de mars 2022 jusqu'à décembre 2022, la force-là devait prendre corps. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Et vous pensez que c'est rapidement qu'ils vont pouvoir mettre en place ce corps-là, parce qu'il faut l'entretien du corps. Et quel pays va vouloir déléguer ses militaires pour se faire tuer? Hein, peut-être sur un terrain de combat, pour peut-être remettre quelqu'un sur la selle, et qui va pourchasser encore ceux qu'il avait renversés il y a quelques jours auparavant. Et donc, cette approche est improbable. Et donc, pour moi, il n'y a que l'approche diplomatique qu'il faille utiliser aujourd'hui pour faire revenir la calmie au Niger.
D'accord. Au même moment que certains dénoncent une entorse à la démocratie dans ces pays qui ont connu des coups d'État ces trois dernières années en Afrique de l'Ouest, d'autres estiment que ces coups d'État vont dans le bon sens, celui de la décolonisation de l'Afrique, et saluent les actions des putschistes. Et c'est justement la question que Ouara les Vainqueurs pose dans sa parution de ce jeudi. Mali, Guinée, Burkina Faso et Niger, l'heure de la vraie décolonisation de l'Afrique a-t-elle sonné? Les raisons cachées du dernier coup d'État à Niamey, Michel Tchadi.
Vous savez que le général Tchadi a justifié son coup d'État par le fait qu'il y avait une dégradation de la situation sécuritaire, par le fait que le président Bazoum avait des problèmes de gouvernance. Sa gouvernance laissait à désirer. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a des raisons cachées. Vous savez que, c'est vrai que tout le monde le sait, le président Bazoum n'avait pas des relations de bon voisinage avec ses voisins immédiats, notamment le Burkina, le Mali, et dans une certaine mesure, la Guinée-Conakry. Et il ne ratait pas l'occasion pour insulter proprement le colonel Assimi Goïta.
Et c'est la première fois qu'on voit ça, chef d'État d'un pays voisin.
Voilà, insulté publiquement, il le faisait parce qu'il a des soutiens. Mais au-delà de ça, je pense que la raison principale, c'est l'occupation du Niger par les forces étrangères. Notamment, Marwa le disait, les forces françaises qu'on a chassées du Mali et du Burkina, et les forces américaines. qui sont actuellement au Niger. Pour une armée, pour un officier bien formé, il ne peut pas comprendre que un président de son pays puisse faire la part belle aux forces étrangères qui ont des armes que le Mali n'a pas, qui ont des matériels que le Niger n'a pas. Et qu'il se permette, le chef d'État bien sûr, qu'il se permette de dire sur les antennes que les djihadistes sont plus forts que son armée, alors qu'il a laissé stationner sur son territoire d'autres forces étrangères. Ça, c'est intolérable. C'est intolérable pour une armée vraiment fière de l'être. Et je pense que c'est la raison, quand vous interrogez les observateurs avisés, c'est la raison. Il y a beaucoup de raisons, mais c'est la raison principale. Aujourd'hui, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'après le Mali, après le Burkina, après la Guinée, on a l'impression que après les trois pays, aujourd'hui le Niger s'ajoute, c'est que on assiste progressivement à des regroupements d'États avec des visions claires, débarrassées des désirata des anciens colons. C'est fondamental. Et c'est ça seul qui peut sortir l'Afrique de sa situation actuelle. Vous voyez? Parce que c'est vrai, Magua le disait, personne ne fait la promotion des coups d'État. Personne ici, sur ce plateau, n'encourage pas les coups d'État. Mais c'est l'observation que nous faisons de la situation. Parce que les chefs d'État qui étaient en place au Mali, au Burkina, en Guinée, vous savez comment ils sont venus au pouvoir. Ils doivent avoir la bénédiction d'une puissance ou des puissances étrangères avant de venir au pouvoir. Et ne soyez pas surpris que les minéraux, que les ports, que comment vous les appelez, les ports et puis les mines, tout ça là, aille dans les, en tout cas, vers ces puissances-là qui les soutiennent. Et aujourd'hui, c'est le regroupement de ces États-là avec une vision claire. C'est-à-dire que les pays vraiment décident d'eux-mêmes, pas être influencés par quoi que ce soit. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons, c'est une question qu'on s'est posée. Nous n'en savons pas grand-chose. Nous ne sommes pas naïfs. Pour ceux qui nous écoutent, on n'est pas naïfs. On se pose la question, est-ce que c'est la vraie décolonisation réclamée par les peuples et la jeunesse africaine? D'accord. Parce que nos grands-parents ont souffert. Nos parents ont souffert. Nous aussi, nous continuons. Vous comprenez? Nous continuons et nos enfants risquent de continuer. Les puissances-là viennent prendre des petits groupes qu'on soutient depuis plus de 60 ans. Le reste de la population courpit dans la misère. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ils ne sont pas ceux qui s'agitent aujourd'hui. C'est là où je viens à une éventuelle intervention. Le Nigeria ne décide pas seul. En tout cas, ceux qui décideront d'aller combattre le peuple nigérien, il faut qu'on à l'école, qu'on enseigne ça, que les gens notent leur nom, leur pays, qu'ils vont pour l'histoire. Pour l'histoire, il faut qu'on enseigne ça à l'école. Ceux qui prendront le risque, les chefs d'État qui prendront ce risque-là, il faut qu'on enseigne ça à l'école. D'accord. Que c'est eux qui sont allés combattre le peuple nigérien en un moment donné de l'histoire.
D'accord.
Parce que c'est inconcevable. Pour Joël, c'est inconcevable. Parce que moi, je me dis que ceux qui vont pour établir Bazoum, ils ne vont pas pour établir la démocratie. Parce que on voit comment on a chassé Gbagbo du pouvoir. Il a été pris comme une pintade mouillée. Personne n'a rien dit. On voit comment on a fait, on a humilié Kadhafi. Des voyous, des délinquants, des criminels dans le désert ont tué ce président pour rien comme ça. Avec la bénédiction de certains de nos chefs d'État. Ça veut dire quoi?
D'accord. Merci Michel. Deux minutes.
Que les auditeurs comprennent notre colère. Et nous sommes prêts. Je lisais sur une de nos plateformes, les journalistes disent, ils sont prêts à aller au front au Niger. Est-ce que tu comprends ça? Tu as une fois entendu un journaliste réagir comme ça? Le journaliste, c'est pour écrire, c'est pour parler au micro. Mais pas aller au front. Quand le journaliste dit qu'il est prêt à aller au front, ça veut dire que l'heure est grave. Et que ce Bazoum dont toi on est en train de vouloir protéger là, il n'est rien. C'est-à-dire, chers auditeurs, comprenez-nous notre colère. Parce que l'Afrique se réveille à travers le Mali, la Centrafrique, la Guinée, le Burkina, et la liste va continuer. Que le Nigeria reste là-bas à dormir.
D'accord.
Michel a dit quelque chose d'important. Nous, on va prendre notre calepin, plein noter tout ça, non là.
D'accord. Merci à vous tous. Nous marquons une pause et on revient.
13.5. Canal FM.
Nous voici de retour pour la suite de cette émission. Nous allons ouvrir l'antenne aux auditeurs. Il y a déjà un auditeur en ligne. Allô? 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 Je crois qu'il est reparti. 22, 21, 33, 14, 22, 20, 19, 68. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
C'est monsieur?
C'est l'évangéliste Marcelin.
Ok, on vous écoute.
Je salue tous les journalistes présents là-bas, sur le bateau.
Merci.
Ok, vous allez, je vais aller tout droit. L'heure a sonné, c'est dans la prophétie, dans la grande prophétie de la fin des temps. Dieu est au contrôle, Jésus-Christ de Nazareth est au contrôle. La France, les États-Unis, en bref, les pays occidentaux qui ont pillé l'Afrique depuis l'esclavage, passant par la colonisation, aujourd'hui, le néocolonialisme. Jésus va les chasser. Il va les punir sévèrement. Tous ceux-là, tous nos présidents actuellement qui ont pris la décision d'aller chasser les militaires au Niger là-bas, affronteront, feront face à la colère de Dieu Tout-Puissant. Parce que Jésus au contrôle, c'est déjà écrit. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur l'évangéliste. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est monsieur?
Aregba.
Monsieur Aregba, on vous écoute.
Oui. Concernant les accidents sur la route, moi, j'accuse nos forces de l'ordre qui prennent les 500, les 1000 francs qu'ils mettent dans les poches et laissent continuer les bêtises. Concernant le Niger, moi, je suis pour les coups d'État. Parce que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Moi, je suis prêt à aller mourir au Niger. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Allô? 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 Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Fousséni.
Oui, votre nom, s'il vous plaît.
Je salue le plateau. Hein.
Oui, bonjour.
C'est Patrick.
Monsieur Patrick, on vous écoute.
Ok. Monsieur Fousséni, c'est vrai que nous ne sommes pas d'accord sur tout ce qui se passe sur le continent africain. Mais que nos compatriotes aussi comprennent que rien ne justifie ce coup d'État au Niger. Vous savez, le Niger est l'un des pays qui au moins arrive à contenir les assauts des djihadistes. Renseignez-vous, le premier pays dans le Sahel là-bas a au moins lutté contre efficacement contre ces djihadistes, c'est le Niger, et après la Mauritanie, et le Tchad a suivi. Donc, si d'aucuns disent que c'est parce que Bazoum a fait une déclaration, mais et on a fait un coup d'État là-bas, si un général a vu qu'il a été humilié, ou bien un officier supérieur de l'armée nigérienne a vu qu'il a été humilié par son président qui disait que les djihadistes sont plus équipés, mais je dirais à leur place, qu'est-ce que je ferai? Je vais montrer au président là que ce n'est pas ce qu'il pense à aller combattre, à faire plus mieux. Et là, tout le monde verra que vraiment, c'est pas ce que le président est en train de dire là qui est vrai.
Est-ce qu'ils peuvent le faire s'ils ne sont pas équipés?
Écoutez, monsieur Fousséni, il y a des choses à tel militaire qu'on ne peut pas tout vous dire sur les chaînes.
D'accord.
Un général qui est ambitieux du pouvoir, mais pourquoi ne pas enlever les étoiles qui est sur son épaule, porter un habit civil et être candidat, battre la campagne pour aller aux élections et gagner, que de passer par un coup d'État. À quoi servent maintenant nos institutions? Si chaque pays, et parce que j'attends un journaliste que la liste va continuer là, c'est un peu dangereux. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord, mais ce n'est pas le coup d'État aussi qui va nous sauver. Bon, vous renvoyez la France, vous ralliez à la Russie. Combien de pays, combien de personnes parlent la langue russe? Or, l'armement, tout ça là, de la Russie, c'est en russe. C'est maintenant qu'on va encore commencer la formation. Ce n'est pas aller tirer avec, c'est-à-dire appuyer sur la gâchette ou dire qu'on est en train de tirer. Il y a actuellement là, les bombes là. Il faut apprendre d'abord. C'est l'école. Moi, je suis désolé. Bonne émission.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Allô? 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 Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Hussein.
C'est monsieur?
C'est Abdoul.
Monsieur Abdoul, on vous écoute.
Oui. Bon, la France croit qu'il y aura la guerre civile au Niger. C'est pourquoi il est venu rapatrier ses concitoyens. Nous, on veut dire à la France qu'il aura honte. Nous, on va lui renier. Parce que Allah nous a averti dans le Coran que les Nassara, c'est les Français ça, et les Yahoudia, les Israéliens, ils sont des alliés du diable. Je ne sais pas pourquoi les gens collaborent toujours avec eux, l'État français. Nous, on aime les Français, mais c'est l'État français qui est diable. On va les renvoyer en Afrique, qu'ils sachent ça. Donc, tous ceux qui sont derrière la CEDEAO, tout ça là, ils sont des ennemis du Niger. Nous sommes prêts, on va combattre aux côtés des Nigériens. Merci, que d'accord. Dieu bénisse le tout.
Merci, monsieur Abdoul. Allô? Allô, pas encore. Allô? Oui, bonjour.
Allô?
Bonjour.
Thierry.
Oui, allô?
Oui.
On vous écoute.
Oui, je pense que le mandat présidentiel est maintenant limité au Togo. Donc, si le président fait encore un autre mandat, il va partir. Que ceux qui applaudissent les coups d'État continuent à applaudir les coups d'État. Cela voudra dire qu'un jour, il peut quitter le pouvoir. C'est juste une supposition. Hein. Et si on encourage les coups d'État, il reviendra. Ou bien, un officier de l'armée, pas lui, va faire un coup d'État. C'est cette logique qu'on aura si on encourage les coups d'État. Non. Qu'est-ce qu'on veut au juste ? Faut qu'on se pose cette question. Quelqu'un a dit tout à l'heure que le Niger est bien est sous Bazoum et ici, il faut être bien géré. Mais je lui donne raison. Je lui donne raison. Donc, si on veut continuer à encourager les causes d'État, l'Afrique va se transformer, qu'on le veuille ou pas. Mais ce sera de façon graduelle. Il faut qu'on arrête cette histoire de coup d'État en Afrique. Et quand ça va s'arrêter, les gens feront leurs deux mandats, vont quitter. N'importe quelle dame de l'armée ne se lèvera pour enlever les présidents. Quand le président ne va pas bien travailler, on va le sanctionner dans les urnes. Arrêtons cette histoire de coup d'État.
D'accord.
Bonne journée.
Merci beaucoup. Allô? Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est monsieur?
Votre frère Richard depuis le Copenhague.
Ah, monsieur. On vous écoute. On vous écoute.
Ouais, et personnellement, je suis un peu déçu par rapport à votre analyse aujourd'hui. Vous êtes tous unanimes sur le Niger. Vous êtes tous unanimes sur le Niger. C'est clairement, qu'est-ce que nous voulons bâtir? Quelle démocratie nous voulons bâtir? Vous croyez que la Russie est un modèle de démocratie? Non! Nous sommes un peuple chez eux. Nous devons arrêter avec ces coups d'État en Afrique. C'est bien que ça ne n'est pas parce que le président qui est au pouvoir. Non, nous voulons arrêter avec les coups d'État en Afrique.
D'accord.
Mais si vous avez cette force, le ministre, les ennemis communs, ce sont des djihadistes. Ce n'est pas le président pour moi. Tous les militaires avaient chassé des djihadistes. C'est ce que nous voulons de vous.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir appelé. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, le dernier auditeur, on vous écoute.
Bonjour, c'est Monsieur Gérard.
Monsieur Gérard,
oui.
On vous écoute.
Bien, moi, je voudrais juste calmer mes compatriotes Georges et mon ami de Copenhague tout à l'heure, de plutôt garder le silence et laisser cet Africain, entre guillemets, individu, quelque part, qui ne sait pas ce qu'il veut. Et on dit, au nom de quoi, on n'aime pas quelqu'un, ou bien on n'est pas content de ce que fait un chef d'État, ou bien on est contre la France, et on dit, je suis d'accord pour certains coups d'État, ou bien je suis d'accord pour les coups d'État. On vient de leur rappeler, je viens de leur rappeler, si vous venez être candidat, serez-vous prêt qu'on puisse vous couper, que vous fassiez bien ou mal. Et qu'un citoyen, quelque part, n'apprécie pas votre politique, même si vous faites bien, il n'apprécie pas votre politique. Moi, je suis très fier de voir
que nous voulons nous considérer comme intellectuels, africains qui savent tout, mais qui utilisent tout ce qui vient de, du blanc, et être là, côté TikTok, réseaux sociaux, et encourager pour dire, moi je suis d'accord pour le coup d'État. Je suis d'accord pour certains coups d'État. Et je vois certains panafricains, des gens, des hommes politiques, des gens qui sont dans, sur les débats, sur les télés, bien cravatés, qui se disent aller à l'école, qui disent on est d'accord, on peut être d'accord pour certains coups d'État. Je vois ça depuis quelques jours. Je ne veux pas nommer les chaînes. Et on voit ça ici au Togo. On voit ça ailleurs dans les pays. On sort pour aller devant des chancelleries pour dire à bas la France. La France fait quoi à quel Africain? Quand cet Africain lui-même accepte de prendre des ciblats chez des Blancs pour venir zigouiller son prochain au nom de du ventre. Le ventre que nous-mêmes avons de champ, nous devons produire dans notre pays si nous voulons être sérieux sur notre continent. Je suis triste. Je suis triste.
D'accord. Merci beaucoup. Merci d'avoir appelé. C'était le dernier auditeur de ce jour. Alors, un tour de table pour vous prononcer sur les réactions des auditeurs.
Michel Sadia. Non, Fousseni, le jeudi passé, j'étais à ce même micro, j'ai dit que nous ne sommes pas pour les coups d'État. Parce que c'est régler malin problème avec les coups d'État. Mais nous disons une chose, c'est la réaction de certaines institutions et certains pays par rapport à ce qui se passe au Niger qui suscite en nous des réactions parce que nous avons, il y a d'autres exemples, d'autres cas. Quand on nous dit que oui, les coups d'État c'est pas bon, oui, nous sommes d'accord. Encore que il ne faut pas que les gens révisent leur constitution pour un troisième mandat. Encore que il faut faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde. Ça dit que la démocratie a des principes. Que ce soit aussi ou ailleurs, a des principes. Que des gens fassent une démocratie à eux, une démocratie propre à eux, c'est ça qui peut amener des situations que nous déplorons aujourd'hui comme ça. Vous savez, c'est la réaction, je le disais tantôt, des institutions comme la CEDEAO, que d'aller, le recours, c'est le dernier recours, c'est d'aller chasser cette junte du pouvoir. Cette junte du pouvoir, pour la remplacer par quoi? Pour mettre Bazoum, pour être protégé par qui? Par ces forces étrangères qui viendront chasser la junte actuellement. Moi, je pense que quelque part, c'est un peu de la fanfaronnade, hein, parce que ça va être un peu compliqué. C'est pourquoi je dis, nous ne sommes pas pour les coups d'État. Mais puisque c'est arrivé, Magoura le disait, il faut voir comment régler ce problème du point de vue diplomatique, d'une manière diplomatique, pour éviter des problèmes qui vont nous créer des problèmes plus graves que ce que nous avons aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez? Parce que, encore une fois, ce n'est pas la démocratie qu'on veut établir au Niger. Parce qu'on en a vu ailleurs où la CEDEAO, les mêmes puissances n'ont rien dit. Ce n'est pas la démocratie. Vous voyez, ce n'est pas la... On sait à peu près. On sait à peu près pourquoi les gens se préfèrent comme ça et on veut désigner le Nigeria comme la locomotive pour vraiment faire le sale boulot. Voilà. Mais je le dis, je le répète, ceux qui iront combattre l'armée nigérienne, l'armée nigérienne, je pense que leurs noms seront gravés à jamais. Que c'est eux qui ont combattu le peuple nigérien à un moment donné de l'histoire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes terroristes un peu partout. Et que les chefs d'État se permettent d'envoyer. Actuellement, les chefs d'État-major, ils sont allés là-bas. Bon, s'ils vont être à l'hôtel, manger, boire, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Mais décider de quoi que ce soit. Je dis l'histoire retenant tout ça là. Voilà.
D'accord. Ambroise Kondo.
Oui, moi je voudrais juste faire comprendre à ceux qui ont appelé. Vous savez, c'est la diversité d'opinion. Hein. Moi je respecte leur opinion. Et eux aussi, ils ont une autre lecture de la situation. Nous, nous ne sommes pas les promoteurs d'un coup d'État en Afrique. Mais eux aussi, peut-être, ils sont promoteurs d'un coup d'État constitutionnel qui engendre plutôt les coups d'État militaires. Je crois qu'il va falloir qu'on fasse un débat entre nous. C'est vrai, certains sont à l'extérieur, d'autres sont à l'interne. Parce que il faut qu'il y ait des ferments. Et ce sont ces ferments-là qui créent des coups d'État militaires. Quand vous suivez le président George Weah du Libéria,
que c'est des coups d'État institutionnels qui engendrent des coups d'État militaires. Les coups d'État militaires ne viennent pas ex nihilo. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un soubassement. Comment faire pour éviter les coups d'État militaires? C'est par là, c'est la question là qu'il faut se poser et revenir en arrière. La CDAO ne fait pas cet effort-là. Si nous nous sommes en colère, c'est pas pour promouvoir les coups d'État militaires, mais c'est justement par rapport au management même des dirigeants africains de la CDAO. Il y a un protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance. Et donc, certains membres de la société civile ouest-africaine, dont le professeur Dessay et autres, sont en train de faire un lobby pour qu'il y ait une révision de ce protocole-là, pour limiter les mandats à deux. C'est parce que les gens sont imbibés dans le troisième, quatrième, dans les énièmes mandats que les coups d'État militaires arrivent. Et que certains se plaisent. C'est deux raisons qui motivent les coups d'État. Les coups d'État constitutionnels et l'intrusion de l'extérieur, de l'Occident, dans les affaires internes des pays africains, surtout francophones, de la France en l'occurrence. Donc que les gens ne pensent pas que nous sommes là pour soutenir les coups d'État militaires. Parce que nous considérons qu'il y a deux raisons qui motivent les coups d'État militaires. Il y a des coups d'État qui ne sont pas bons, mais il y en a qui sont salvateurs. Pas salvateurs parce que nous, on veut les appuyer, non. Mais eux aussi, ils doivent faire preuve de résilience pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets.
D'accord. Magloire Teko.
Oui, je crois qu'on a suffisamment évoqué le sujet. Ce qu'il faut relever, c'est que, moi, je le dis souvent, aujourd'hui, à l'heure du débat, on n'est plus là à dire pourquoi ces coups d'État, mais que faire? Parce que c'est ça le vrai débat. Et quand on se réfère un peu au passé, je crois, dans un passé très récent, la CDAO était quand même cette organisation sous-régionale très bien structurée, bien organisée, et par rapport à la CEMAC et toutes les autres organisations sous-régionales. Je crois que la CDAO était en avant sur les autres. Maintenant, comment en est-on arrivé à aujourd'hui où la CDAO devient, on va dire, une organisation sous-régionale qui est là, certes, qui crie certes, mais qui n'est pas audible. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La situation s'était produite au Maroc. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des sanctions qui allaient dans tous les sens. Après, on a levé la sanction. Et ça s'est répété en Guinée. On a sanctionné. Après, on a levé les sanctions. Au Burkina, pareil. Mais ça n'a pas empêché les militaires de rester au pouvoir. C'est pour cela que je dis, il ne sert à rien de crier, de faire beaucoup de bruit. On va tirer au Niger, tout ça. Pour moi, je le dis encore une fois, c'est très improbable, quitte à ceux qui peut-être croient à ça naïvement. Ça n'arrivera pas. Maintenant, la seule alternative aujourd'hui, c'est de s'asseoir, prendre attache, prendre langue avec les poutistes, si on veut les appeler ainsi, sinon les militaires qui sont au pouvoir, pour voir dans quelle manière on peut négocier pour que la paix revienne à la maison. Parce que, n'oublions pas, la CDAO est déjà, on va dire, assez fébrile par rapport aux attaques terroristes que nous connaissons. On va pas ajouter à cela des guerres ou des situations beaucoup plus conflictuelles qui puissent rendre les États plus poreuses à des attaques terroristes. C'est pour ça que nous ne cesserons jamais de le dire. Il faut prendre langue avec les gens, discuter jusqu'à ce que les gens ne se comprennent. Parce que le risque aussi encouru, quand on dit qu'on va faire la guerre au Niger et tout, c'est que beaucoup peut-être l'ignorent. À ce jour, le président Bazoum reste encore dans les mains des militaires qui sont là. Dans certains couvents, on parle de prise d'otages. Ok, le monsieur n'est pas encore libéré. Et vous décidez d'aller faire la guerre contre ces gens-là. Leur première réaction, c'est peut-être de liquider le monsieur. Malheureusement, ça va être leur première réaction. Ok, pour vous, on nous attaque, donc première réaction, peut-être ils vont vouloir le liquider, c'est ce que nous ne voulons pas. Et donc, je ne sais pas si les uns les autres pensent à tous ces contours de la chose avant d'annoncer cette hypothèse de guerre que moi je ne crois pas. Maintenant, pour conclure, la diplomatie, faut que les gens s'écoutent, se parlent pour trouver une situation idoine. Parce que si ça brûle au Niger, je ne crois pas que le Nigeria sera tranquille. Je ne crois pas que le Bénin. Nous sommes tous des voisins. Du Niger, même le Togo n'est pas tranquille, le Ghana à côté n'est pas tranquille. Donc on a tous intérêt à collaborer, à unir nos forces pour que la paix revienne au Niger.
D'accord. Puisque vous avez le micro, votre carton. pour sortir.
Pas de carton, mais beaucoup de courage à tous ces acteurs qui luttent pour que la situation devienne calme dans la sous-région, pour qu'il y ait la paix.
Mmh. Ambroise Kondo, carton.
Oui, moi si j'ai un carton, c'est... j'ai un carton vert à l'endroit des dirigeants du Burkina, mmh. De la Guinée et du Mali. Mmh. Bon, ceux-là qui sont hybrides, là, je ne vois pas clairement leur couleur, l'Algérie et... la Mauritanie. Mmh. Moi, il faut, pour ce débat-là, il faut qu'on... Parce que les militaires voudront d'abord chercher à évacuer tout ce qui est militaire américain et français d'abord, avant d'organiser. Parce que quelqu'un m'a envoyé un message de dire l'ultime solution, c'est de donner 6 mois aux militaires d'organiser des élections transparentes.
D'accord.
Je leur ai dit c'est une option. Mmh. Mais les militaires prendront du temps, un peu du temps, pour élaguer, faire partie les militaires français du territoire et américains pour s'assurer que leurs mines et autres seront protégés.
Mmh, d'accord. Merci Ambroise. Michel Tchadja.
Je n'ai pas de carton, mais comme à chaque fois en 1999, après le coup d'État contre Maïna Sara, j'ai eu à interroger certains Nigériens qui circulent ici. À l'époque, beaucoup d'entre eux que j'ai pu croiser n'étaient pas contents. Mais contrairement à cette année, j'ai eu à encore interroger certains Nigériens. Mais la plupart, ils disaient, il est parti, Bazoum est parti. Je sens une certaine joie en eux. C'est vrai que ce n'est pas tous les Nigériens, mais c'est une manière de caricaturer un peu comment les Nigériens voient la situation dans leur pays.
D'accord. Ouais. Merci à vous tous. Michel Tchadja du journal Loira Les Vainqueurs, Magloire Teko du journal Flambeau des Démocrates et Ambroise Kondo du journal The Guardian. À la technique, il y avait Michel Tomega, mise en ligne Jérôme Akoucha. Je suis Fousseni Saïbou. Pascal Lossou vous retrouve demain à 11h. À très bientôt.